Oui.
Vous vous souvenez probablement de vos premières fois, eh bien, au sommaire de France Bleu Soir. Une première fois, celle de l'acteur Félix Moati qui se lance dans la réalisation d'un long métrage. Ça donne un résultat étonnant. Une comédie décalée, deux fils avec Vincent Lacoste. Ils sont tous deux nos invités. Vous allez les retrouver après les titres du journal de Frédéric Dorel. C'est aussi une première pour vous. Bonsoir.
Face à eux deux, oui. Bonsoir Arnold. Bonsoir à tous.
Deux portraits de Simone Veil ont été tagués à Paris.
Un nouvel acte antisémite qui arrive après une série de plusieurs ce week-end. La justice est saisie. Respectez-vous les dates limites de consommation. Certains jettent les produits avant péremption en voulant trop bien faire et ça induit du gaspillage. Nous serons en direct avec Éléonore Kubik de France Nature Environnement pour savoir combien de temps, par exemple, on peut garder des œufs ou les steaks hachés sous vide.
La grippe se transmet de manière intensive en ce moment.
500 000 cas de plus en une semaine. Nathalie Delpera fera le point pour nous. Redoubler en tout cas de vigilance. Emmanuel Macron qui reçoit les syndicats agricoles. Nous verrons pourquoi avec Nicolas Ballu. La déroute du 15 de France. Nous écouterons les solutions préconisées par l'ancien capitaine Abdelatif Benazi. Et puis donc, on va parler cinéma avec vos invités, Arnold.
Mais oui, avec plaisir. Félix Moati, réalisateur seulement, bonsoir.
Bonsoir.
Et Vincent Lacoste, toujours acteur.
Oui, bonsoir.
Bonsoir toujours. Aussi. On va parler de ce très beau premier film, Deux Fils. Jusqu'à 20h, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire de cette comédie atypique et décalée. Mais tout de suite, c'est le journal.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek. Frédéric Dorel.
Journal que l'on démarre avec une bien mauvaise nouvelle, Frédéric Dorel, la série des tags antisémites continue dans Paris.
Et la dernière victime indirecte, c'est Simone Veil. Deux portraits de la rescapée d'Auschwitz ont été recouverts de croix gammées. Mélodie Pépin, la justice est saisie.
Oui, pour ne pas laisser passer cet acte immonde, abject, lâche, choquant. L'indignation est forte pour le maire du 13e arrondissement qui en appelle à la responsabilité de chacun. Écoutez.
Je pense que notre société se doit de réagir très fortement pour bien marquer la gravité de ces faits et dire de manière très collective qu'on ne laisserait pas se réveiller la bête immonde sans réagir.
Et le ministre de l'Intérieur promet, lui, que cet acte infâme ne restera pas impuni. Ça n'est pas le seul, d'ailleurs, qui a été signalé, Mélodie.
Truie juive inscrit sur un mur. Macron, la putain de la youtrie universelle. Lit-on sur la façade du journal Le Monde ce matin. On apprend aussi que les arbres plantés en souvenir d'Ilan Halimi, ce jeune juif torturé et assassiné, ont été profanés dans l'Essonne. Une série, après ce tag, sorti des poubelles de l'histoire samedi matin, le mot « Juden » inscrit en lettres jaunes sur le restaurant Bagelstein en plein cœur de Paris. Juden, comme lors de la nuit de cristal en 1938, cette nuit où des milliers de commerces ont été saccagés, une centaine de juifs assassinés. Comme un appel à recommencer pour le CRIF qui se dit très inquiet.
Alors, on peut parler de recrudescence ?
Oui, ça dure depuis des mois. Plus 69% d'actes antisémites signalés en 2018, après deux années de baisse.
Merci Mélodie Pépin. Les détails de ces tristes affaires sont sur francebleu.fr.
À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, un convoyeur de fonds a disparu avec son chargement.
Il ne reste que le fourgon qui a été retrouvé à quelques rues de l'agence bancaire où le chauffeur devait attendre ses collègues. Préjudice estimé 1 million d'euros.
Car puisqu'on parle gros sous, une deuxième réception au château de Versailles pour Carlos Ghosn.
En plus de son mariage, l'ancien patron de Renault-Nissan avait fait réserver une partie du château en 2014, officiellement pour fêter les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. Seulement, nous dit les échos, la fête a eu lieu le jour de ses 60 ans.
Un anniversaire à présent, celui de la loi contre le gaspillage alimentaire. Elle a 3 ans cette loi.
Et elle fait bien son âge parce que c'est mieux. Il y a de réels progrès en la matière, mais on est encore loin de la perfection, à 3 ans évidemment. La faute en partie aux dates de péremption, DLC, DDM. Laetitia Evelyne, on a du mal à s'y retrouver. Hein.
Et pour cause, ça se joue à une tournure de phrase entre « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant le ». Pourtant, la différence est énorme. Au-delà de la DLC, la date limite de consommation, les industriels nous disent qu'il y a un risque pour la santé si l'on consomme le produit. Ils sont généralement conservés au réfrigérateur, la viande, les charcuteries, les sandwichs ou les fromages au lait cru, par exemple. En revanche, pour la DDM, la date de durabilité minimale, la direction de la répression des fraudes nous explique que si l'emballage est intact, on peut tout à fait consommer le produit sans risque après la date. Les céréales ou les chips peuvent un peu ramollir. lire. Résultat, sûrement une petite grimace, mais aucun risque de tomber malade. Pourtant, ce n'est pas vraiment respecté par le consommateur. Certains s'arrêtent à la date et ne préfèrent pas s'aventurer au-delà. D'autres ne voient même pas la mention à consommer de préférence, parfois très loin du tampon dateur.
Merci Laetitia Evelyne. En effet, la moitié des Français jettent les produits dès qu'ils sont périmés ou même le jour qui précède.
France Nature Environnement, une fédération qui regroupe 3500 associations de protection de la nature, s'est d'ailleurs emparée du problème.
Pour en faire un livre blanc, selon elle, comme on vient de le voir, une des causes de ce gaspillage vient des dates de péremption. Les Français les respectent trop. Éléonore Kubik, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chargée de mission, justement, prévention et gestion des déchets au sein de France Nature Environnement. Et vous demandez à ce qu'en plus de la mention à consommer de préférence avant tel jour, on ajoute et aussi après.
Oui, tout à fait. Effectivement, pour lever les doutes qui peuvent y avoir liés justement à cette date qui sont une cause de gaspillage alimentaire. Mmh. Et on vient proposer aussi parfois pour certains produits comme les vinaigres, le sucre ou ce genre de produits qui ne viennent pas se périmer, de pourquoi pas directement supprimer cette mention pour éviter justement le gaspillage.
Et même l'allonger d'une journée en fait, c'est la date de durabilité minimale, de dire allez finalement une journée de plus, ça n'est pas grand chose et c'est beaucoup pour l'environnement.
Alors ça c'est effectivement, ça a été un des constats faits par une agence publique britannique qui a étudié sur le sujet et qui s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un gain très important en rajoutant une simple journée sur certains produits. Et effectivement ce gain selon eux serait même estimé à une hauteur de 100 millions d'euros. Donc ça fait effectivement beaucoup de choses. Donc c'est dans cet esprit-là que France Nature Environnement a décidé de s'associer à l'initiative de l'application Too Good To Go justement et de publier ce livre blanc ciblé sur les dates de péremption.
Parce que les dates sont fixées par les industriels pour éviter tout risque pour la santé du consommateur, mais aussi sur la qualité du produit, des dates qui sont en plus prévues avec pas mal de marge. Mais alors pour les 50% de Français qui jettent les produits à partir de la date ou même la veille, combien est-ce qu'on peut aller au-delà de cette date pour garder un yaourt par exemple ou un litre de lait?
Alors, effectivement, ça va dépendre aussi des produits, comme votre collègue le disait. Pour les produits avec une date limite de consommation, pour des produits très frais, comme notamment de la viande, du poisson, du jambon, faut quand même être assez vigilant. C'est-à-dire que vous pouvez dépasser d'une journée, deux journées, pas plus. Après, faites vraiment confiance à vos sens. Si ça a une drôle de tête, si ça sent mauvais, vous n'y touchez pas.
D'accord.
Par contre, pour d'autres produits où effectivement on est plus ciblé sur cette fameuse date de durabilité minimale, vous pouvez aller un peu au-delà.
D'accord.
Pour des produits de grande consommation, par exemple, un yaourt, généralement, jusqu'à 2-3 semaines, il n'y a pas trop de problèmes.
Mmh.
Pour du lait, si effectivement l'emballage, alors à chaque fois, on parle bien de produits bien emballés. Un litre de lait, vous pouvez le conserver 1 à 2 mois après, justement, après le passage de la date. Tant que l'emballage est resté intact, normalement, il n'y a pas trop de problèmes.
Bon, bah, très bien.
Et les pâtes, par exemple, c'est plusieurs années.
D'accord. Écoutez, on va faire des post-it pour la maison. Merci, Éléonore Kubik, chargée de mission prévention et gestion des déchets au sein de France Nature Environnement. Très bonne soirée à vous.
À vous aussi, merci.
Il est 19h08, merci de rester avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. On parlera d'Emmanuel Macron, il recevait les syndicats agricoles aujourd'hui. Nicolas Ballu nous dira pourquoi ils sont encore des partenaires importants sur le plan politique. On reviendra malheureusement sur la défaite de l'équipe de France de rugby hier face à l'Angleterre. Mais d'abord, si vous avez échappé à la grippe cette année, eh bien vous avez de la chance parce que l'épidémie est en plein boom en ce moment.
Oui, d'après la ministre de la Santé, le pic a probablement été atteint la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Nathalie Delperra?
Quelques chiffres tout d'abord pour comprendre pourquoi on parle de pic. Le nombre de cas a bondi avec 500 000 malades de plus en une semaine. Plus de malades aussi aux urgences et des hospitalisations qui ont quasiment doublé, surtout en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. En décembre, le petit nombre de cas faisait dire aux spécialistes que le vaccin était bien adapté aux souches en circulation.
Ouais, on s'en souvient.
Oui, mais maintenant, la ministre de la Santé elle-même parle d'un vaccin moyennement vraiment efficace, qui lutte à moitié contre l'une des souches et vraiment très mal contre l'autre.
Alors, la grippe, est-ce qu'elle est plus forte selon le mois où on l'attrape?
Ah, c'est impossible à dire, il n'y a pas de règles, sinon où est-on le mieux protégé? Eh bien, si on reste dans une maison isolée au bout d'un chemin, ça ira. Mais même dans les petites communes, le nombre de cas augmente dès qu'il y a une école, une caserne, bref, du monde qui se fréquente. Et si l'on doit utiliser des transports en commun, eh bien, risque maximum de choper la grippe, comme on dit. En tout cas, tant que Santé publique France n'aura pas collecté les chiffres de la semaine en cours, impossible de vraiment affirmer que le pic est atteint. Pour parler des crues, il faudra aussi attendre que le nombre de consultations baisse réellement. Il peut aussi y avoir des rebonds. Alors, de toute façon, pas de triomphalisme.
Merci Nathalie Delpera. Pour le moment, les chiffres de mortalité sont identiques à ceux de l'année dernière. 1100 décès après les chiffres arrêtés au 20 janvier. Mais l'an passé, l'épidémie avait été catastrophique. On s'en souvient, avec 13 000 morts en tout pendant l'hiver.
Nous sommes un interlocuteur dont Emmanuel Macron tiendra davantage compte aujourd'hui. C'est la présidente de la FNSEA qui parle ainsi.
Christiane Lambert, dont le syndicat est sorti renforcé des dernières élections dans les chambres d'agriculture, elle salue du coup le pragmatisme du chef de l'État à propos du glyphosate. Tant qu'il n'existera pas de solution pour s'en passer, la France signera des dérogations aux agriculteurs concernés. Nicolas Ballus, ça veut dire que les agriculteurs ont encore un poids politique?
Vous allez voir que dans 10 jours, tous les politiques vont se presser au salon de l'agriculture. Si les agriculteurs n'avaient pas de poids, ils n'iraient pas, me direz-vous. Mais c'est aussi l'image éternelle de la France agricole qui se joue là. Aujourd'hui, le monde agricole est aimé des Français, d'autant plus qu'il s'efface. Combien sont-ils les agriculteurs? 850 000. Traditionnellement à droite, de plus en plus tenté par Marine Le Pen, mais de moins en moins déterminant pour une élection. Il y a bien longtemps que la France, aux 6 millions d'exploitations d'après-guerre, s'est terminée. 450 000 exploitations aujourd'hui, et la baisse n'est pas finie. Le paysage agricole est en partie en crise. La réforme de la PAC, la remise en cause de son modèle, oblige le monde agricole à se transformer. Les groupes agroalimentaires sont aujourd'hui la force de la France et les agriculteurs en sont dépendants. C'est tout l'enjeu de la loi alimentation, l'agroalimentaire qui précarise les agriculteurs. Le poids politique d'une profession se mesure également au poids de ses syndicats. Encore fort pour la FNSEA, mais les très récentes élections professionnelles confirment le désamour rapide et croissant des agriculteurs envers leurs représentants, signe d'une forme de résignation.
Merci Nicolas Ballu.
Et signe que la ruralité compte, Emmanuel Macron sera jeudi à Gargilès dans l'Indre.
Gargilès d'Ampierre, dont le maire Yvanick Berberian préside l'association des maires ruraux, au programme une réunion de travail notamment sur le potentiel des territoires ruraux.
Près de 70 000 salariés sont au chômage partiel en raison du mouvement des Gilets jaunes.
Alors ce sont des chiffres du ministère du Travail. 5 000 entreprises ont dû suspendre leur activité au moins partiellement.
19h12, une petite page sport avec le rugby français qui est en plein doute après sa deuxième défaite dans le tournoi des Six Nations.
La prochaine échéance est dans 12 jours, l'Écosse au Stade de France. Alors comment éviter un jamais 203? Il faut tout revoir, dit l'ancien capitaine Abdelatif Benazi.
Comment sauver le 15 de France? C'est envoyer les équipes des jeunes qui ont été champions du monde avec moins de 20 ans et qu'il faut leur donner leur chance, les laisser s'aguerrir au haut niveau, même s'ils font des contre-performances. Il faut être courageux, vous savez, on n'a rien à perdre.
Quand vous dites il faut être courageux, est-ce qu'il faut dire à des gens comme Picamol ou Bastaro, c'est fini?
Bien sûr, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Là, on prépare l'avenir. L'avenir, c'est pas eux.
Pour vous, est-ce que Bernard Laporte, le président de la fédération, a une responsabilité dans ce naufrage?
Beaucoup, beaucoup. Je lui donne l'entière responsabilité. Arriver et chambouler le 15 de France, mettre l'ancien entraîneur dans une situation de faute professionnelle alors que c'est quelqu'un qui mérite une sortie honorable, tout ça les joueurs le sentent. Et ces joueurs-là, quand ils viennent en équipe de France, ils sont méconnaissables. Ça, on le paye cash. Aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés de sa politique. J'espère qu'on se remettra de ça.
Abdelatif Benazi, ancien capitaine de l'équipe de France avec Fanny Lechevestrier.
Sport toujours avec une deuxième médaille française au championnat du monde de ski alpin.
Alexis Pinturo s'impose en combiné. C'est un premier titre de champion du monde pour le skieur de Courchevel et un premier titre pour la France dans cette discipline depuis Michel Vion il y a 37 ans.
De la musique pour terminer votre journal, Frédéric Dorel, avec l'ancien manager de Johnny Hallyday. Il veut faire revivre l'œuvre du taulier.
Ouais, l'idée est de ressortir année par année tous les albums de l'idole, mais aussi de raconter leur histoire en ajoutant des inédits. Et Sébastien Farran ne désespère pas non plus de sortir les tournées des vieilles canailles. Gabriel et Johnny, lors de son dernier concert des Vieilles Canailles, c'était en juillet 2017, et le public qui reprend, hein, j'ai refusé.
De mourir d'amour enchaîné.
Bravo! Un extrait que l'on retrouvera sûrement un jour en réédition.
Oui. Vous ne rassurez pas avec ce son-là, j'espère?
Non, rassuré.
Le son est quand même assez pourri.
C'est assez terrible. Oui, voilà. oui, c'est vrai. Mais bon. Non, mais du coup, ce sera en réédition, ce sera beaucoup mieux.
Ah oui, ce sera beaucoup mieux et on s'y attend. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Dorel. En attendant, je vous recommande d'aller voir Deux Fils.
Oui.
L'excellent premier long métrage de notre invité Félix Moati avec notre deuxième invité Vincent Lacoste. Vous avez des enfants turbulents, et bien vous allez en découvrir deux sur grand écran.
Oui, mais c'est pas en vrai là cette fois, donc c'est bien.
Allez savoir.
Très sage, vous savez.
Oui. On va en parler jusqu'à.
Des petits coquins.
Alors deux petits coquins jusqu'à 20h dans France Bleu Soir.